Bibi nous entend, mais c'est parce que c'est rendu le mardi, la chronique de Bruno Gervais. Fait que ça va être, y a-tu le mardi des dames? Ça a-tu déjà existé?
Oui, le mardi des dames, c'était où, Don Ray?
Oui, mardi des dames, ça a déjà existé.
Mondial?
C'était pas uniquement, c'était pas une,
voyons. D'après moi.
Ouais, puis où il y avait des danseurs à Québec? Comment ça s'appelait, donc? Au Bugs?
Pourrais-tu la remettre le mercredi?
Non, il joue au Bugs le mercredi.
Ouais, c'est pas mon problème, ça. Hey, Nozaki.
Alors,
qui vient de venir manifester? On va aller rejoindre tout de suite l'ancien des Islanders de New York, qui est notre analyste de hockey, Bruno Gervais. Bonjour, Bruno.
Hey, bon matin, la gang.
Ça va bien?
Très bien, vous autres?
Yes, sir. T'es en pleine forme, pas raqué pantoute. J'ai un genou un peu endolori, mais j'ai pas joué au hockey parce que j'ai l'impression que les gars, à date, les games des séries qu'on a vues depuis samedi, encore plus dans des séries plus spécifiques, là, je ne sais pas, t'es passé par là. Je trouve que le niveau de jeu a tellement augmenté que la présence physique... Hier, je voyais les prédateurs, entre autres, frapper tout ce qui bougeait. Les Blues ont essayé aussi. Ça brasse pas à peu près en ce début de séries éliminatoires.
Ah, c'est très, très intense. Tu as nommé ces deux séries-là. Je pense que la série Tampa Bay et Floride aussi. Il y a tellement de talent sur la glace, mais... Je sais pas si c'est le fait de revoir un peu de spectateurs dans les estrades qui est venu donner un autre niveau aux émotions, mais l'intensité qu'il y a à chacun des matchs. Et c'est là que, de plus en plus, tu vois, ces équipes-là qui ont du succès, c'est des équipes qui ont le talent, qui sont basées là-dessus, c'est certain, mais qui sont venus greffer le papier sablé, qui ont bâti une équipe, oui, pour la saison régulière, mais surtout pour les séries. Puis Tampa Bay l'avait appris ça, à leur dépens. La Knicks se sont fait sortir par Columbus. Ils n'ont pas voulu refaire la même erreur. Puis c'est là qu'ils ont été chercher les Goodrow, les Maroon, les Coleman. Puis tu le vois. C'est ces gars-là qui doivent répondre présentement parce que les Panthers de la Floride, ils amènent une tempête pour ce qui est du jeu robuste et de l'intensité. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les séries. J'ai regardé cette année, on s'est fait prendre un peu au jeu de regarder beaucoup la division Nord. Puis quand ça fait plusieurs matchs à la division Nord, tu regardes, là, tu changes de poste, puis tu poignes ces matchs-là, là, Boston, Washington ou Tampa, Floride. J'avais l'impression que c'était une autre ligue complètement.
Ben c'est ça là, qu'on se dit aussi, on en a parlé, Ray et moi, cette semaine. On disait, hey, tu sais, le Canadien, puis autant la série aussi Edmonton-Winnipeg, Canadien-Toronto, j'ai pas l'impression qu'on va avoir le même niveau de jeu ou d'engagement. J'ai bien hâte de voir, mais ça a vraiment l'air de deux ligues complètement différentes.
T'as entièrement raison, mais faut leur donner la chance parce que eux autres aussi, là, vers la fin de la saison, les gars avaient hâte d'être là. Puis c'est un peu dans ton subconscient. Oui, tu travailles fort, tu fais les bonnes routes sur la glace, tu prends une bonne décision, tu joues intelligemment. Mais c'est certain que ton arrière-pensée est tu vas être là pour les séries quand ça va compter. Puis dans les deux côtés, mais tu sais, je regarde les Canadiens. Toffoli en est un qui joue avec beaucoup de d'intensité, de papier sablé quand c'est le temps. Il l'a fait avec les Kings. Il recule pas devant personne. Fait que c'en est un qui peut amener son jeu à un autre niveau. Anderson a sorti le Lightning de Tampa Bay quasiment à lui seul quand ils les ont balayés. La façon qu'il jouait, c'est ce que Lightning avait dit en sortant de la série. On n'avait aucune réponse pour ce que Josh Anderson amenait. Fait que j'ai bien hâte de voir si lui va amener ça à un autre niveau. Mais là, c'est drôle parce que là, t'as le Foligno qui est au bord. Il y en était un aussi qui avait fait ça. Fait que des deux côtés, de des gars qui sont capables de faire ça, d'aller chercher cet élément-là qui va être contagieux puis qui va amener ça à travers le reste de la formation. Parce qu'un gars comme Gallagher est en santé, ça en est un qui amène cette intensité-là, qui va finir ses mises en échec. Même chose avec les Perry. Donc, j'ai hâte de voir si cette équipe-là, quand je parle du Canadien, qui a ajouté les éléments, là, tu sais, les Edmondson, puis on sait que la défensive est un peu plus grosse, est-ce que ça va être capable de lever d'un cran justement pour rendre le travail difficile au talent des Leafs?
Donc, si on va revoir le Canadien des 20 premières games de l'année où il paraissait quasiment trop fort pour la Ligue, tellement il s'imposait et physiquement et sur la glace dans tous les niveaux du jeu, là.
Oui, mais mis à part, mettons, parce qu'il marquait beaucoup de buts, mais il en accordait beaucoup. Puis contre les Leafs, tu veux pas ouvrir le jeu. Si tu veux affronter une équipe qui est beaucoup plus talentueuse que toi, tu veux pas ouvrir ça. Tu veux absolument garder ça serré, garder ça le long des rampes, puis tu veux que ça devienne une série difficile, pas beaucoup d'espace physique, parce que c'est là que le Canadien peut avoir un avantage, puis avec surtout avec leur défensive, c'est comme ça que tu vas être capable de garder. Puis présentement, croises les doigts, là. Tu veux pas réveiller le monstre qui dort, mais l'avantage numérique des Leafs fonctionne pas en tout. Fait que c'est là que tu peux, peut-être des fois, là, t'en donnes un peu plus, puis justement, tu veux rendre le travail difficile, puis t'investis. Dans une série de 7 matchs, c'est que t'investis. C'est que les bonnes mises en échec données au premier match vont faire que, tranquillement, le gars va essayer de bouger la rondelle un peu plus rapidement. Fait que des fois, c'est pas la bonne décision. Puis un moment donné, là, à longue, là, rendu au match 3, puis au match 4, puis à chaque fois tu t'habilles, puis t'as le 17 d'en face, t'as le 11 qui finissent leur mise en échec, qui cognent dur, ben un moment donné, tu deviens un peu plus hésitant. Puis un moment donné, t'as mal à l'épaule. Puis là, tu vas chercher la rondelle, tu dis, tu dis quoi, vas-y donc le premier. Puis c'est ça que tu veux te rendre là comme équipe. C'est l'investissement que tu fais des matchs 1, 2, 3 qui vont payer plus tard dans la série.
Est-ce que comme joueur, quand ça brasse vraiment comme ça, physiquement, là, tu te lèves le lendemain matin, puis vous êtes dans la jeune vingtaine, là, quand vous êtes au cœur de ce qui se passe dans les séries actuellement, donc début de vingtaine ou au maximum la fin vingtaine, mais c'est-tu plus...
Ça fait mal.
Hein? Ouais, c'est ça, développe avec des bleus, t'as-tu besoin de... T'es-tu mieux de pas pratiquer pantoute entre les games? Comment t'as vécu ça, toi?
Ben, ça va dépendre, c'est cas par cas. Moi, j'aimais ça, être capable de pratiquer entre les games parce que justement, de faire bouger le corps, tu sors de là raqué. Des fois, quand il y a des matchs qui deviennent très intenses puis que ça cogne dur, tu vas sortir de là puis juste en tu le sens surtout le lendemain matin, là, tu te lèves puis là, wow, là, t'as le dos qui est, on dirait qu'il est tout barré, là, t'as l'épaule, le cou qui a de la misère à bouger. Là, tu te lèves d'un coup, voyons, tu boites parce que t'as une hanche qui est comme un peu barrée puis. Là, comme la journée avance, la circulation sanguine se fait, puis là, tu retrouves un peu de mobilité. Fait que des fois, de bouger entre des entraînements très courts, mais de rebouger, ça t'aide à garder ce niveau-là que de juste rien faire. Mais des fois, tu arrives à une situation où t'as pas le choix, c'est le repos, puis tu essaies de prendre chaque seconde possible, de pas utiliser un bras, de pas marcher sur une jambe, peu importe, pour arriver au match. Le plus près de 100%, mais des fois, tu es à 30%. Si tu es capable de monter à 32%, tant mieux de la capacité de ton ventre. Puis après ça, d'embarquer sur la glace, ça fait partie des séries, c'est sûr.
Kucherov n'a pas eu besoin d'aller dans la Ligue américaine pour reprendre son niveau de jeu. Il en a pété deux la première game. Mais par contre, lui, Stamkos, de retour au jeu pour les séries, ça fait qu'il y a des gars qui ont joué les 10, pense à Barry Boulet, et d'autres qui ont joué les 10, même 20 dernières games du Lightning, qui sont laissés de côté à la première game des séries. Est-ce que c'est dangereux, ça, pour l'attitude autour de l'équipe, le fait que tu arrives là, puis oui, c'est ton capitaine, puis ton meilleur scoreur, mais d'être laissé de côté à la partie la plus importante de l'année?
Ben, c'est parce que c'est Kucherov puis Stamkos qui reviennent. C'est une situation qui est particulière. T'sais, si c'était, puis rien pour y enlever parce que Mathieu Joseph joue très bien, mais tu sais, un Mathieu Joseph qui est là, puis là, c'est lui qui revient d'une longue blessure, puis il y en a qui étaient là, puis il faisait le travail, et là, ça devient un peu plus difficile. Mais tu as deux joueurs, tu les as vus tout de suite sur l'avantage numérique. Puis ça paraît, ça fait des années qu'ils travaillent ensemble, fait qu'ils ont pu profiter de cet avantage numérique-là pour faire la différence. Puis c'est une prestance, c'est du talent pur qui embarque. Puis tu vois, je m'attendais pas à ce qu'ils soient capables de lever leur jeu directement au niveau, surtout le premier match, les séries, les Panthers sont sortis puis ont tout envoyé au Lightning de Tampa Bay. Mais ces gars-là, aussitôt que tu leur donnes un peu d'espace, aussitôt que tu leur donnes l'occasion de bouger la rondelle en avantage numérique, ils ont fait payer les Panthers de la Floride. Puis fait quand t'as ces deux gars-là qui arrivent, non. Ces joueurs-là qui ont joué jusqu'à la fin, tu parles de Barry Boulet, tu sais, ils sont en entourage, ils vont attendre leur occasion. Puis dans les séries, ça bouge tellement. Tu sais, t'as Ross Colton qui a joué un match-là. Est-ce que mené des blessures, si ça va moins bien, il y a des changements. Il y a quelques joueurs qui peuvent avoir une rotation là-dedans. Puis Barry Boulet, si c'en est un de ceux-là qui peut embarquer puis à venir aider puis suivre le rythme. Quand on va avoir le temps, lui, dans le fond, il attend son occasion.
Est-ce que le Canadien sont en retraite fermée, surtout à cause de la COVID, à cause des fois du dérangement familial qu'il peut y avoir pour certains joueurs? Comment le Canadien a décidé de procéder pour ces séries éliminatoires?
Ben, ça continue. Tu sais, ils sont dans une bulle depuis le début. Fait que c'est encore plus... puis ça vient de tous et chacun. Là, t'es encore plus naturellement dans une saison normale, tu tombes un peu dans une bulle à ce temps-ci de l'année parce que tu veux pas être distrait. Toute ton énergie est orientée vers une seule chose. Puis même tu sais les familles pis le monde dans l'entourage très près le comprennent ça. Fait que t'as une mission. Fait que là c'est quasiment la même affaire, mais là naturellement la bulle est encore plus opaque puis tu sais serrée. Et c'est ce que le Canadien, les joueurs du Canadien fait. Ils vont avoir quand même le voyage. Ils font le voyagement vers Toronto, ils reviennent ici. C'est un horaire normal au niveau de ça. Là, c'est pas une bulle à une destination comme on a vu l'année dernière, mais tout ce qui est ce que tu peux contrôler, les repas, les si, la nourriture, c'est pour certains. Tu veux minimiser le fait que les joueurs ont besoin de se déplacer ou faire quoi que ce soit.
Mais
tu arrives à Toronto, c'est tout le temps en équipe, c'est tout le temps contrôlé. T'sais.
Mais ils dorment à la maison quand ils sont à Montréal, ils sont chacun oui. chez eux.
Oui.
OK. C'est ça, des fois, je me demandais s'il y a des équipes, on a plus connu dans le passé des bulles complètement fermées où on voulait pas que les joueurs qui avaient des jeunes enfants ou toute autre distraction possible.
À la Jacques Demers, là.
À Jacques Demers faisait ça?
Ça me semble, c'est ça que j'avais entendu dire. À Jacques Demers avait fait ça, la conquête de la Coupe Stanley, avait amené les gars, retraite fermée, on s'isole, puis non, c'est pas présentement.
Peut-être que de l'avoir vécu aussi l'an passé, ça a été pas tout le temps facile pour les joueurs d'être enfermés à l'hôtel à Toronto. Peut-être que c'est cette année pour ça qu'on garde un peu plus de latitude. En tout cas, ça va être bien intéressant à suivre. Bien hâte de voir le début de la série Toronto-Montréal jeudi. Mais à date, le hockey des séries est enlevant, est intense. Les arbitres laissent beaucoup jouer. Je sais pas si c'est un mot d'ordre qui s'est donné dans la ligue. D'après moi, ça va devenir dur à contrôler parce que il y a des gestes qui sont vraiment à la limite du tolérable.
Oui, notamment la mise en échec. Je sais pas si vous avez vu la mise en échec de Bennett sur Coleman. Ouais. Ça, c'est le vidéo que tu prends pour expliquer aux jeunes enfants quoi ne pas faire sur une mise en échec. Tu n'as pas le droit de frapper dans le dos. Voici un exemple concret, facile. C'est une mise en échec, même que c'était un assaut. Puis oui, c'est très intense. C'est tellement rapide maintenant. Et là, dans plusieurs des formations, t'as bien des gars qui vont utiliser ça. Tu sais, t'as moins, y a moins les durs à cuire. Fait qu'il y a bien des gars là qu'on voyait là c'est qui Lombard en Floride qui t'en profite. Puis t'as plein de joueurs de talent sur la glace. Fait qu'il y a des gars comme ça qui amènent cet élément-là de plus, qui peuvent justement amener une certaine intimidation parce que ça fait partie des séries éliminatoires. Il y a une certaine intimidation. Mais maintenant, tu as moins de joueurs à surveiller. Fait qu'un gars comme c'est Ryan Lomberg qui s'appelle, il court un peu partout, il brasse, lui, avec Mason Marchman, c'est des gars qui s'impliquent physiquement. Puis c'est un peu plus facile à éviter parce que tu en as moins de l'autre côté qui peuvent jeter les gants ou te ramener à ta place comme ils veulent. Fait que c'est là que tu vois ces gars-là ressortir, puis il y a plusieurs coups qui se donnent, puis ces gars-là veulent faire un impact sur la série. Fait c'est les mises en échec, c'est le rififi après le sifflet tout le temps, c'est le gant en face, essayer de déranger. Puis quand tu joues contre une équipe aussi talentueuse que le Lightning, c'est ce que tu veux faire. Tu veux les sortir de ce jeu-là, tu veux les amener dans un endroit qui sont inconfortables, mais faut que tu restes discipliné. Fait que c'est le marché, cette ligne-là, qui est très, très, très mince. Mais le Lightning, c'est l'effet faire le tour. Puis on l'a vu dans le passé, des équipes très talentueuses qui se font sortir par une équipe, par exemple les Blue Jackets de Columbus, qui l'ont fait aux Leafs de Toronto, qui l'ont fait au Lightning de Tampa Bay, parce que la façon qu'il jouait, puis ce qu'il amenait, puis ce qui forçait les joueurs de talent à descendre à un niveau où hey, tu vas venir jouer le jeu robuste, puis je vais être dans ta face sans arrêt, c'est là que certains gars de talent, des fois, qui abandonnent ou qui précipitent leur jeu. Puis là, t'enlèves le temps et l'espace à un gars qui en a besoin, puis c'est là que c'est ton avantage.
Pendant ce temps-là, les Maple Leafs de Toronto et leur club-école, les Marlies, ont fait la nomination de deux femmes. Le hockey, on le sait, là, c'est macho. Hein? Ça, je pense pas que quelqu'un va pouvoir dire le contraire. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça qu'on ait nommé Mme Goyette et Mme Wickenheiser?
Elle était déjà là,
mais là, elle occupe un poste plus important, ça
non,
se peut-tu?
Ben, elle a d'autres choses à faire, elle est médecin.
OK. Mais elle devient pas la directrice du développement?
Senior,
OK. Fait que, est-ce que toi, tu penses que ça peut avoir un impact sur les joueurs? Y a-tu des choses, peut-être des messages qui vont moins bien passer? T'en penses quoi, là?
Ben, moi, j'adore ça. Et j'espère qu'on va continuer d'aller dans cette direction-là pour arriver à un point où ça va être juste la personne la plus compétente. Puis dans ces deux cas-là, c'est zéro de surcompenser, loin de là. Mais c'est d'amener cette ouverture-là d'esprit que ça devient plus un sujet particulier. Oh, wow, gars, ils font ça. Et puis là, t'as tout le temps, bon, ils font ça, ben, c'est un bon, c'est une belle promotion, c'est ci, c'est ça. Ça devrait être juste. C'est des femmes exceptionnelles avec de grandes expériences au niveau hockey, de grandes connaissances au niveau hockey, puis qui ont, tu sais, surtout, on entend un Wickenheiser parler. Regardez quel genre de femme que c'est. Elle est tellement bonne à vulgariser, à communiquer ce qu'elle fait. C'est une éthique de travail exceptionnelle. De tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a accompli dans sa vie, tout ce qu'elle continue à faire, vous l'avez dit, c'est tout récemment là, qu'elle a reçu sa graduation. Donc ça, c'est phénoménal, puis j'espère qu'on va s'en aller dans cette direction-là où ça va juste devenir, bon, qui est capable d'amener un meilleur bagage, puis qui amène des outils pour aider mon équipe, puis point final. Et là, il y a tellement de gens compétents. J'ai eu la chance de côtoyer Nathalie Spooner quand j'étais en Ontario. Puis c'est une légende du hockey féminin, une Canadienne. Mais sa façon de s'exprimer, la façon de vulgariser les choses, puis ses connaissances hockey, c'est le genre d'atout que tu as besoin pour enseigner aux jeunes d'aujourd'hui. Et c'est pas, tu sais, des fois, t'en as des vieux de la vieille, ça fait longtemps qu'ils sont là, puis ça marche encore à coup de claque en arrière de la tête, puis travaille fort. Tu sais, il y a une nouvelle école, il y a du monde qui sont capables de décortiquer, qui sont capables de vulgariser, puis l'enseignement se fait complètement différemment, puis ça peut être des hommes ou des femmes, c'est selon le vécu, puis t'en as d'excellentes pédagogues ou d'excellentes personnes hockey comme ça. Fait que moi, on s'en va dans cette direction-là, puis j'espère qu'à un moment donné, ça sera juste plus une surprise. Ah oui, ben oui, c'est vrai, c'est elle, parce qu'elle a ces atouts-là. Numéro un, merci, bonsoir.
Je ne sais pas si les Gaulois ont fait la même chose, mais ils ont pris la meilleure personne, mais ils t'ont nommé comme gouverneur de l'équipe.
je ne sais pas s'ils ont pris la meilleure personne, mais oui, c'est un honneur de suivre les pas, dans le fond, de Yves Sanfaçon, qui a été là pendant des lunes, qui a fait un travail formidable. Puis le sentiment d'appartenance, surtout au niveau Midget 3, tu sais, c'est la dernière catégorie qui est purement au Québec. Quand on parle du sommet de la pyramide du hockey québécois, du jeune hockey québécois, c'est au Midget 3. Ça, c'est un honneur là, de pouvoir être impliqué. Puis tu vois, je regarde un peu à travers la ligue, il y a quelques visages que je connais bien qui sont là, puis je vais pouvoir justement fatiguer un peu, puis d'être d'en face un Guillaume Latendresse, lui qui est impliqué avec le collège Charlemagne. Fait que c'est tout un honneur d'être là, une très belle organisation, puis je cherchais une façon, ça fait longtemps que je cherche une façon de continuer à m'impliquer, puis d'essayer d'aider là, le hockey au niveau des
mais
jeunes.
Mais c'est-tu un rôle honorifique d'être gouverneur, ou c'est, tu sais, t'es pas assistant coach? Qu'est-ce que t'as exactement?
Ben, je fais le lien, dans le fond, entre la Ligue, le président, Yannick Lévesque qui est là, Yannick Gagné qui sont là, et les Gaulois. Puis de là, il y a des comités avec les Gaulois, je suis impliqué à ce qui est le hockey. Puis c'est un peu avec, je veux pas, j'ai une charge de travail, fait que je pouvais pas être là à tous les jours, mais j'ai eu de très bonnes conversations avec eux, puis c'est au fond, au rythme où je veux m'impliquer, puis c'est ce que je cherchais, c'est une porte d'entrée où j'ai une certaine flexibilité, puis après ça, d'essayer de m'impliquer, puis juste de l'extérieur, tu sais, un peu de voir, de poser des questions, de voir un peu comment ça marche, amener des idées, amener des conseils de choses. Puis s'il y a des certaines situations dans lesquelles je sens que je peux m'impliquer puis aller aider, c'est ça que je veux faire.
Les Gaulois, vous deviez présenter la Coupe TELUS, puis la pandémie a frappé. Bruno, c'est-tu encore dans vos plans pour présenter la Coupe TELUS?
C'est encore dans les plans, puis ça, c'est un gros projet.
Et ben oui.
On parle d'un gros championnat là, canadien. Là. Oui, c'est encore dans les plans de la ramener à Saint-Hyacinthe. C'est certain que continuellement, puis il y a tellement eu de tournois et de coupes et de ci, de ça qui ont été soit annulés, tassés, déplacés avec tout ce qui se passe. Mais là, on a l'impression de s'en aller dans la bonne direction. On a l'impression de voir la lumière au bout du tunnel avec les rumeurs qu'il y a présentement, les annonces qui devraient se faire dans les prochaines semaines. Fait que si on retrouve un semblant de normal, oui, c'est ça. Ça, c'est dans les plans.
C'est good. Merci, mon chum. Bonne semaine.
Hey, bonne semaine à vous autres.
Peut-être qu'on va se reparler mardi prochain, puis il y a une équipe qui va être au pied du mur, là.
Aller vite. Ah oh, oui, ça peut aller vite. Hey. Donc, c'est quoi vos prédictions, la gang, là? Pour cette série-là?
Moi, quand même, j'en donne une à Toronto. Fait que Canadien en 5.
Mm-hmm. Optimiste, c'est bon. C'est
Ray?
Bon. Mais moi, je prends Toronto.
Tu prends Toronto?
Oui.
En combien?
7-8? Pas grave.
C'est pas grave.
Moi, je prends les Leafs en 2. Fait que...
Toi, Bruno?
Moi, j'ai pris les Leafs en 6. Okay. Les Leafs en 6. Ouais, ça a été. Mais je le souhaite, le Canadien a une équipe bâtie pour ça. Je pense que ça va être une très bonne série. J'ai pris les Leafs. j'aimerais bien ça que ça soit la Bunch of Jerks qui gagne ça cette année. Je les vois, les Hurricanes, c'est une équipe qui est bien bâtie, puis ils ont une super belle surprise en Alex Nedeljkovic devant le filet, fait que ça pourrait même être lui le Conn Smythe.
Écoute, avant il y a game d'hier, je l'avais jamais vu gauler. Imagine-toi donc comme je le connaissais pas. Fait que OK, hey, on va suivre ça, on se reparle la semaine prochaine.
On se reparle.
Salut Bruno. Salut, Bruno Gervais, notre analyste de hockey en plein cœur des séries éliminatoires. Ah ben en plein cœur. Ça débute tranquillement mais sûrement. En tout cas avec les matchs qui ont été présentés à date, on a été pas mal gâtés. Le Canadien sur nos ondes à partir de jeudi prochain, donc jeudi, samedi, lundi, mardi de l'autre semaine, ensuite ça retourne jeudi, samedi et peut-être que lundi le 31 mai, les Maple Leafs seront en congé. Et quand les Maple Leafs vont se réaliser qu'ils font face à une muraille qu'ils ne peuvent percer,
ils vont se réveiller.
Ils vont tout simplement abandonner.
Ils vont se réveiller et ils vont aller à l'aréna.
Ils vont abandonner.
La porte du Sandbell va être barrée. Moi, je pensais que c'est ça qu'ils disaient.
La porte du Sandbell va être
barrée. C'est ça. Ah, checkez bien les raisons que les Maple Leafs vont se trouver encore une fois pour s'écrouler. On revient dans un instant.